Vous écoutez RTL.
8h18, Arnaud Montebourg, vous êtes resté avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL. Peut-être avant de démarrer, juste une question. La polémique autour d'Emmanuel Macron et ses histoires de costumes face à un homme qui l'interpellait en t-shirt, comment vous percevez ça? Comment l'avez-vous vécu?
Écoutez, j'ai été élu pendant 15 années. Je sais ce que c'est que solliciter le suffrage de nos compatriotes. Donc quand on sollicite le suffrage ou qu'on prétend le faire, la première, précaution à avoir, c'est de respecter ceux, et notamment les plus modestes, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un costume. Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qui nous a été donné. Quand vous êtes ministre de l'économie, vous représentez toute l'économie. C'est-à-dire que vous êtes le ministre des entreprises, grandes ou petites, et dans les entreprises, vous n'êtes pas que le ministre des gens qui ont réussi dans la vie. Vous êtes aussi le ministre des salariés, des cadres, des ouvriers, et donc des syndicalistes aussi. Et donc, il faut rassembler ces gens autour d'un projet commun et collectif. Donc, il ne s'agit pas de les stigmatiser, de les mépriser. Donc, je pense que le respect est fondamental.
Et vous pensez qu'il a fait, que le ministre de l'économie a fait preuve de mépris?
Je trouve que il y avait quelque chose comme ça.
On va discuter avec les auditeurs d'RTL, si vous le voulez bien. À commencer par Christian, qui nous a appelé, bien entendu, au 3210. Christian, vous nous appelez de Dijon, en Côte d'Or. Je vous écoute.
Oui, bonjour Iscalvi, bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour Monsieur.
Je voulais savoir si, depuis votre discours du Mont-Beuvret du 16 mai dernier, vous avez avancé dans votre réflexion concernant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017. Merci.
Merci de votre question. Depuis le Mont-Beuvret, c'est-à-dire il y a à peu près 15 jours, nous avons ouvert une plateforme numérique qui s'appelle leprojetfrance.fr, où chacun peut se rendre. Il y a déjà 83 000 votes, 400 contributions, 250 propositions précises. C'est une plateforme qui a pour but d'associer les Français à la construction de ce que moi j'appelle un grand projet alternatif. J'ai besoin de
temps... Qui dit projet dit objectif, Arnaud Montebourg?
Oui, un projet, il faut le
porter. C'est la question qui vous est posée, vous l'avez compris.
Oui, c'est vrai. Mais le projet, il faut le porter ensuite. Moi, je n'inverse pas les choses. J'en suis d'abord à bâtir le projet. Et ensuite, je m'interrogeais sur sa force, sa solidité, sa puissance, sa force d'entraînement, notamment.
Et si tel est le cas, vous le porterez, ce projet?
Je le ferai. Je prendrai ma décision cet été. Donc, je réponds à votre auditeur en disant l'été, c'est entre le 21 juin et le 21 septembre. Voilà, ça se resserre. Ça se resserre.
Ça y est, on commence à voir. On voit les choses un peu plus précisément. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé. Je crois que vous avez une réponse directe d'Arnaud Montebourg. Vous nous téléphoniez de Dijon, en Côte d'Or. C'est Claire maintenant qui va vous interroger, Arnaud Montebourg, si vous le voulez bien. Elle nous appelle d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Claire. Arnaud Montebourg vous écoute.
Bonjour.
Bonjour, madame.
J'enchaîne parfaitement sur la question. Pensez-vous vraiment que si votre décision est positive entre le 21 juin et le 21 septembre, un candidat de gauche puisse être élu vu les résultats de M. Hollande?
Je crois que c'est la question qu'il faut poser, en effet. Je crois que oui. Nous portons quelque chose qui est parfaitement alternatif à ce qui a été fait ou précisément qui n'a pas été fait. D'ailleurs, je pourrais finalement m'interroger en me disant est-ce que ce quinquennat était écrit d'avance? Est-ce que c'était certain que nous allions nous retrouver dans cette situation? Je ne crois pas, sincèrement. Je pense qu'il y a des choix qui ont été faits, que j'ai désapprouvés. Quand vous êtes dans une collégialité gouvernementale, vous respectez les décisions du président de la République, et quand vous ne les respectez plus, vous partez. C'est ce que j'ai fait. Et partir, pour moi, c'est aussi rester fidèle. Donc, d'une certaine façon, il y a, je crois, des projets dans la société, des gens dans la société, qui ont besoin d'autre chose que ce qui est aujourd'hui au pouvoir. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Reconnaître ses propres erreurs, assumer en sincérité ce qu'est la réalité du pays aujourd'hui et dire les choses, simplement.
Et en sincérité, vous dites « je me suis trompé en soutenant cette équipe qui est au pouvoir et équipe à laquelle j'ai participé pendant plusieurs années en tant que ministre ».
Je me suis trompé, c'est certain. Sinon, je n'en serais pas là. Je ne peux pas dire le contraire. Ce serait malhonnête de ma part.
Olivier va vous interroger maintenant, Arnaud Montebourg. Il nous appelle.
Je ne pense pas d'ailleurs avoir été le seul. Nous sommes quelques millions.
Bonjour Olivier.
Allô.
Oui, Arnaud Montebourg vous écoute.
Oui,
merci
bonjour,
d'écouter RTL.
Bonjour Yves Calusi, bonjour monsieur. Alors moi je suis absolument scandalisé par ce que je viens d'entendre à l'instant. Alors s'il y a des millions de Français qui regrettent peut-être d'avoir voté François Hollande, moi je suis scandalisé lorsque j'entends que vous trouviez l'attitude d'Emmanuel Macron méprisante, car vous-même, je vous rappelle, il y a 2 ans, voire l'année dernière, lorsque vous montiez le Mont-Beuvray, vous étiez assez méprisant envers les équipes journalistiques du Petit Journal. Et cette année, vous avez daigné les recevoir, vous étiez suffisamment nombreux, et ça, vraiment, j'appelle ça une attitude méprisante. Mais voici l'objet de ma question, car...
Après un petit détour, hein.
Après un petit détour, oui, absolument, mais il fallait le préciser tout de même. Autre chose, tout de même, il faut souligner que Yves Calvi a raison lorsque vous parlez de vanter le modèle social anglais, car effectivement, il y a une incohérence avec ces contrats zéro heure et le fait que vous vouliez voter une motion de défiance une nouvelle fois avec votre compagne Aurélie Filippetti face au gouvernement. Ça, c'est très triste. Donc, ma question, la voici. Monsieur Montebourg, ne pensez-vous pas objectivement que vous organisiez une défaite préparée en 2017 avec votre candidature?
Puis juste, excusez-moi Arnaud Montebourg, vous demandez, Olivier, vous êtes sympathisant socialiste?
Oui, je suis, bien sûr, je suis un social-démocrate, social-libéral.
D'accord.
D'abord, je me suis mal exprimé. Je ne suis pas favorable au contrat...
Zéro heure.
Je ne suis pas favorable. Je pense que les salariés doivent être payés pour leur travail, que la valeur travail doit être respectée et honorée. Donc, je ne suis pas favorable. Je pense que la stratégie macroéconomique de M. Cameron...
Dans son ensemble,
qui a conduit finalement, d'ailleurs, à sa réélection, tout simplement. S'il avait eu les mêmes résultats que la plupart des pays de la zone euro, il aurait eu les mêmes problèmes que tous les dirigeants politiques de la zone euro. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en vérité, c'est donc un accord sur les choix macroéconomiques qui a consisté à faire financer la dette publique par la création monétaire de la Banque d'Angleterre. C'est un point important que nous n'arrivons pas à avoir en Europe. Pour le reste, la dérégulation du marché du travail, qui est une vieille histoire depuis Margaret Thatcher, ça, je ne l'approuve pas. La preuve, c'est que je trouve que la loi El Khomri est trop dérégulatrice de ce point de vue-là.
Mais vous voyez, Arnaud Montebourg, on est souvent intéressé par vos prises de parole et ensuite perturbé par votre parcours. Et je pense que la question d'Olivier et celle que je vous posais tout à l'heure résume ça. C'est où est-il exactement Montebourg? Que nous propose-t-il comme projet? Quelle est sa ligne? Vous travaillez aujourd'hui dans une grande entreprise internationale.
Une PME qui cherche à s'internationaliser. Ce n'est pas une grande entreprise, bien, alors, moins de 500 parfait. Salariés, 120
d'accord.
millions de chiffre d'affaires. Aimerait bien être un grand groupe.
Parfait, mais est-ce que vous comprenez que... votre engagement perturbe dans ces différents axes, si je puis dire. Je ne sais pas comment l'exprimer.
Écoutez, c'est vrai, je n'aime pas être enfermé dans des cases. Hein, il est ceci, il est cela. Moi, j'ai défendu, quand j'étais au gouvernement, des idées. J'ai défendu, quand j'étais avant dans l'opposition, dans la primaire, des idées. Elles ont le mérite de la constance. Je suis pour la réforme du système démocratique. C'était la 6e République. Je pense qu'aujourd'hui, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Tellement le système politique est discrédité. Donc il va bien falloir le refonder. Et y compris en faisant entrer les citoyens dans le système politique. Deuxièmement, je suis favorable au patriotisme économique. Ce que j'ai appelé dans la primaire la démondialisation, ce que j'ai appelé au gouvernement le Made in France, ce que j'appelle aujourd'hui et ce que je veux mettre en politique me paraît être une bonne alternative française au sens où nous trouvons une sorte d'équilibre, de compromis entre Français pour s'organiser face à la mondialisation, c'est le mérite quand même de la constance. Donc moi, je veux bien qu'on cherche à me mettre dans des cases, ça ne marche pas. Pour une raison simple, c'est que les cases telles qu'elles existent aujourd'hui ne me conviennent pas.
Et alors, entre Martinez et Berger, vous choisissez qui dans la façon de faire du syndicalisme? Qui seront nos invités ce soir? Réponse courte, s'il vous plaît.
Je pense qu'on a besoin des deux, parce que les deux sont dans une tradition syndicale française. On a besoin de compromis, et on a besoin aussi de gens qui disent qu'il y a des limites à ne pas franchir. On a besoin des deux. Donc, il faut aujourd'hui tenir compte de ce qu'est la France. La France, elle doit s'écouter. Et elle doit s'exprimer aussi parce qu'elle en a besoin. Nous sommes un peuple.
Donc ce matin, vous choisissez Philippe Martinez. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire.
Non, même pas. Je pense qu'on a besoin des deux. Ça veut dire qu'on a besoin des deux.
Chez Habitat, quel est le rapport de votre salaire dans l'échelle des rémunérations?
Je n'ai pas de salaire. Je suis vice-président du conseil de surveillance, donc je ne suis pas salarié. et je suis, comment vous dire, je ne sais pas, je suis indemnisé pour le travail que je fais. Je fais un travail aux côtés des dirigeants, mais surtout un travail d'enquête dans l'entreprise, auprès des salariés. C'est un travail absolument passionnant. Je suis incapable de répondre à votre question parce que je ne me la suis pas posée.
Je précise que c'est une question qui vous était posée
sur
Internet.
Oui, mais je ne peux pas répondre, mais je vais poser la question car je ne connais pas l'échelle des salaires de l'entreprise.
Très bien. Autre question, celle-ci SMS. Un patron dans le BTP, par qui voulez-vous, Arnaud Montebourg, remplacer les travailleurs détachés ?
Par des travailleurs, des salariés locaux, voilà, qu'il faut former. Il y a un travail considérable à faire là-dessus. Vous avez 300 000 personnes aujourd'hui qui viennent de leur pays d'origine pendant 6 mois, qui sont dans tous les marchés de BTP, dans le transport, la logistique. Comment on a pu laisser s'installer ça alors qu'on a plusieurs millions de chômeurs et des gens qui cherchent du travail ? Les chômeurs cherchent du travail, j'en connais beaucoup. Pour ceux qui me diraient le contraire, je suis prêt à les affronter.
Arnaud, bonjour.
Bonjour Yves Calvi, bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour monsieur.
Bonjour, je ne suis pas du tout de votre bord politique, mais j'apprécie votre honnêteté intellectuelle. Vous savez très bien qu'il n'y aura pas de référendum concernant la loi travail, mais je voudrais savoir si vous appelleriez à voter la motion de censure de la droite à la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Votre question, merci monsieur, est très claire, je vais répondre clairement. Une motion de censure est toujours fondée avec un motif dans les règles parlementaires. Mmh. Et les motifs de la censure, lorsque vous votez la motion de censure, vous adhérez à ces motifs. Ce n'est pas seulement un vote aveugle, en quelque sorte. Or, les propositions qui sont présentées par la droite sont des propositions qui demandent une loi El Khomri puissance 10. Donc, évidemment, ça pose un problème à des gens qui ne sont pas d'accord avec cette manière de voir le droit du travail. Moi, personnellement, je pense qu'il faut réécrire le droit du travail. Pourquoi ? Parce qu'il ne protège pas assez les salariés et qu'il enquiquine les entrepreneurs et les employeurs. Donc, il faut trouver un nouvel équilibre. Par exemple, est-ce qu'on sait qu'il y a 1 million d'entreprises dans notre pays qui emploient à peu près moins de 10 salariés ? Hein, tout ce qui est moins de 10 salariés, 1 million d'entreprises. Si c'est ce million d'entreprises embauchaient une personne, pas deux, une personne, ça ferait 1 million d'emplois créés tout de suite. Donc la question du code du travail appliqué aux PME doit faire l'objet d'une négociation entre des partenaires sociaux. Ça prend du temps, ça demande de la patience, mais je pense qu'un État qui dirige un pays, c'est un État qui est capable de construire un tel compromis. Les Suédois l'ont fait, les Allemands l'ont fait, mais sans penser que c'est la victoire des uns contre les autres. On ne s'en sortira pas. En divisant les gens, mais plutôt en les rassemblant.
Je m'étais promis de vous demander ce que vous pensiez du Brexit, parce qu'on est curieux de savoir si ça vous inquiète ou pas, et comment vous le percevez. C'est la dernière question, en vous remerciant d'avoir accepté de jouer au jeu des questions-réponses avec nos auditeurs.
Merci à vous. Le Brexit est une stratégie que M. Cameron a employée pour obtenir des concessions de l'Union européenne qui est impossible d'obtenir par d'autres moyens. Mm-hmm. De ce point de vue-là, je trouve très positif. C'est ce que la France aurait peut-être dû faire pour obtenir ce qu'elle n'arrive pas à obtenir dans l'Union européenne. Car aujourd'hui, la France
menace
bien
de claquer la porte pour obtenir quelque chose.
C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Le plan Fouché était inspiré en 1967 par cet état d'esprit. Pourquoi ne pas s'en inspirer ? Pourquoi ? Parce que l'Union européenne est en état d'urgence. Elle ne remplit pas ses promesses, elle désespère les peuples. Il y a bien un moment où un pays fondateur, pas un pays agrégé, un pays fondateur, il n'y en a pas beaucoup. La France en fait partie et elle a la puissance économique pour le faire. Nous sommes le deuxième pays de l'Union européenne et de la zone euro. Doit le faire. Donc c'est le rôle et je ferai des propositions en ce sens.
Et le Brexit ne vous inquiète pas s'il a lieu ?
Écoutez, je pense que de toute façon, le Brexit, les Anglais décideront. À partir de là, les cartes seront redistribuées. Eh bien, nous ferons avec. Vous savez, l'Europe en a vu d'autres, hein.
Méthode dont aurait pu s'inspirer le gouvernement français, nous avez-vous dit. Merci beaucoup Arnaud Montebourg.
C'est moi.
Bienvenue ce matin sur RTL. Répondre aux questions d'Olivier Mazerolle et de nos auditeurs au 3210. Bonne journée à vous.
Bonne journée.